Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. N'est-il pas étonnant de constater que tous ceux qui vécurent dans la foi, aussi bien à l'époque de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, sans oublier le Christ et les apôtres, tous crurent au récit de la création, tel qu'il figure dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Ils se reposaient le jour du sabbat, parce qu'ils savaient que ce septième jour de la semaine tirait son origine du dernier jour de cette création. Ils savaient que Dieu avait sanctifié ce jour-là et pas un autre. Ce n'est plus le cas de nos jours, car la plupart des hommes ne tiennent malheureusement plus compte de l'importance de ce choix. En se basant sur les généalogies, l'archevêque protestant Hucher avait calculé que la création de la Terre remontait à environ 6000 ans. Par la suite, la science découvrit que la Terre existait depuis des milliards d'années. Plus tard, la théorie de l'évolution fit son apparition et entraîna une vive controverse entre les défenseurs de la Bible et les athées. Le doute s'implanta dans l'esprit de certains dirigeants religieux qui se demandèrent si Moïse avait bien consigné le récit de la création. Ce faisant, ils oubliaient que le Christ s'était référé à cette création ainsi qu'au premier couple, comme nous le verrons bientôt. Les âges, les époques de la création furent présentés par ceux qui se considérèrent comme des modernistes. Cette nouvelle idée séduisit beaucoup de personnes, car elle réconciliait aussi bien ceux qui rejetaient la Bible que ceux qui s'y accrochaient. Cependant, ces derniers se montraient incapables d'en comprendre toute la signification. Puisque la Bible est d'inspiration divine, son contenu ne peut pas nous laisser dans le doute. Elle ne peut non plus débuter par des légendes, ou par des récits farfelus. Voyons donc ce qu'elle affirme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette petite phrase nous présente Dieu comme un créateur et non comme un évolutionniste. Ici, le mot Dieu est traduit de l'hébreu Elohim. Ce mot Elohim a un sens de pluralité comme les mots groupe, église, famille, royaume, composés de plus d'une personne. Nous trouvons ici le commencement de la création physique des cieux et de la terre. Remarquez qu'aucun élément ne nous permet de connaître l'époque au cours de laquelle ces événements eurent lieu. Que cela se soit passé il y a des millions ou des milliards d'années, peu importe. Si Dieu avait estimé que cette information était importante pour nous, il nous l'aurait révélée. Lorsque Dieu posa les fondations de la terre, les anges avaient déjà été créés. Ils étaient présents pour cet événement puisque le livre de Job nous confirme qu'ils poussèrent des cris de joie. Les anges durent être émerveillés par la création de notre planète. Ils l'ovationnèrent selon d'autres traductions. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu. C'est pour cela qu'ils sont appelés « fils de Dieu » dans le livre de Job ainsi que dans d'autres passages bibliques. Le livre de la Genèse poursuit, ajoutant que la terre était informe et vide. Le mot hébreu traduit par « était » est également traduit par « devint » dans Genèse, au chapitre 2 au verset 7, et nous lisons qu'Adam devint un être vivant, ainsi que dans Genèse 19, où en parlant de la femme de Lot, on nous dit qu'elle devint une statue de sel, etc. Pensez-vous que la terre aurait été créée informe et vide? Ces deux mots étant traduits de l'hébreu « tohu bohu ». Tohu se rapporte à quelque chose de désertique, sans forme, dans la confusion, dans la désolation. Bohu peut se traduire par vide. C'est quelque chose d'indiscernable. Croyez-vous que la terre pouvait être dans un tel état lors de sa création, alors que les anges poussèrent des cris de joie, qu'ils l'ovationnèrent, qu'ils acclamèrent ce qu'ils voyaient? Si ce que les anges voyaient n'était que désolation, cela les aurait plutôt plongés dans la consternation, ne pensez-vous pas? L'apôtre Paul nous confirme que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Dieu est l'auteur de la paix, de l'ordre, de la beauté et de la loi. » Un événement grave et important survint entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Il y eut une destruction soudaine de la surface de la terre. Elle nous est confirmée par le psalmiste qui écrit « Tu envoies ton souffle, et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Voilà l'explication que nous livre la Bible. « Renouvelle », Ce mot est traduit de l'hébreu chadash, qui implique une reconstruction, un renouvellement, une réparation. La terre n'a donc pas été créée informe et vite, mais elle le devint. Sa destruction soudaine fut le résultat de la rébellion de Lucifer et de ses anges. Il en est question dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. C'est à la suite de cette rébellion que Lucifer reçut le nom de Satan, signifiant l'adversaire, et ses anges rebelles devinrent les démons. En se référant à cette rébellion, Jésus décrivit ces événements. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il y eut un combat dans les cieux. Lucifer voulut conquérir le trône de Dieu et il entraîna un tiers des anges avec lui. Mais les créatures sont impuissantes devant leur Créateur qui est et reste tout-puissant. » Suite à ces événements, la terre était devenue sans vie. Elle était devenue informe et vide. Une destruction soudaine l'avait frappée. La Bible ne nous dit pas combien de temps s'est écoulé entre la création de la terre et la destruction de sa surface. Elle n'indique pas plus la durée de sa dévastation jusqu'à ce que Dieu répare les dégâts en renouvelant la surface de la terre. Ce renouvellement, cette remise en ordre de la terre, s'effectua en une semaine au cours d'une période de 7 jours de 24 heures chacun, comme nous allons le voir maintenant. Des eaux recouvraient notre globe et Dieu agit avec ordre et méthode. Dieu ordonna que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. L'atmosphère était saturée d'épais nuages et de brouillard, ce qui empêchait la lumière d'atteindre la terre plongée dans l'obscurité. Le premier jour, Dieu dissipa cette couche épaisse et permit aux rayons du soleil d'atteindre la terre, marquant ainsi la différence entre le jour et la nuit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Avec l'augmentation de la température qui s'ensuivit, les nuages restants commencèrent à s'élever et à dégager un espace, formant une étendue qui devint celle dans laquelle les oiseaux volent aujourd'hui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Les eaux reculèrent, la terre apparut. Et c'est la terre qui produisit la verdure, les algues. C'est encore la terre qui produisit l'herbe et les arbres fruitiers. Les eaux sur terre se rassemblèrent pour former les océans. Le sec apparut et les plantes firent leur apparition. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu fit les deux grands luminaires. Il fit aussi les étoiles. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. L'atmosphère ayant été complètement éclaircie, les corps célestes étaient devenus visibles depuis la surface même de la terre. Selon le texte original, dans ce passage, le verbe « faire » a de nombreux sens, dont « rétablir »,« réagencer », c'est aussi « rendre observable ». Le premier verset du livre de la Genèse indique que Dieu créa les cieux, autrement dit l'univers. Mais tout ce que contient l'univers, les étoiles et les autres astres n'avait pas disparu. Cependant, il était nécessaire de renouveler la surface de la terre. Si les jours de la recréation avaient été des âges ou des époques pouvant avoir une durée de plusieurs milliers d'années, comme certains le pensent, et puisque les plantes sont créées le troisième jour, comment auraient-elles pu survivre sans la lumière directe du soleil, qui ne fit sa pleine apparition que le jour suivant? Les insectes n'étant là que le sixième jour, comment ces plantes se seraient-elles reproduites sans leur aide dans le processus de pollinisation? Ces jours de la recréation ne furent donc pas des âges, des époques. Le cinquième jour, Dieu continua à donner ses ordres. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il créa ainsi les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Et ce fut alors le tour des animaux terrestres. Cependant, pour la création du premier homme, Adam, Dieu voulut s'en occuper personnellement. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être, une âme, vivante. Et Dieu donna à ce premier homme l'intelligence afin qu'il puisse comprendre, faire des choix et avancer vers la perfection. Remarquez l'ordre dans lequel Dieu œuvre. Il s'agit d'une création réfléchie, mûrie. Tout d'abord, il permet à la lumière de pénétrer dans notre atmosphère. Il rassemble les eaux pour que le sec apparaisse. Il produit ensuite la verdure, l'herbe, les fruits qui sont nécessaires aux animaux. Après cela, viennent les poissons, les oiseaux et le bétail. L'homme en aura besoin pour se nourrir. Ce n'est que lorsque tout cela sera créé que Dieu façonnera lui-même l'homme de la poussière de la terre. Le septième jour, Dieu se reposa de toute son œuvre en créant un jour de repos. Certains affirment que le septième jour n'est pas terminé et que Dieu se repose toujours. Mais la Bible ne dit pas qu'il se repose. Elle affirme qu'il se reposa. Son repos s'est donc terminé à la fin du septième jour. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul écrit que Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Ce septième jour, ce jour de repos, est donc passé, il a eu une fin. En examinant la Bible, nous pouvons nous rendre compte que Dieu agit et œuvre. Les deux êtres de la famille divine n'ont cessé de travailler depuis la fin du premier sabbat. Moïse nous informe que, en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le mot « jour » signifie une durée de 24 heures dans ce contexte, mais il peut aussi signifier des périodes plus longues dans d'autres passages. N'oubliez pas qu'il faut examiner tous les versets qui traitent d'un même sujet pour comprendre ce que la Bible révèle. La meilleure preuve que nous puissions trouver au sujet du repos et des jours de 24 heures se situe dans la grande loi que l'Éternel rappela au peuple d'Israël du haut du Sinaï. « Tu travailleras six jours » et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est le jour mentionné à la fin de la recréation, voilà son jour. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour sanctifié par Dieu a une durée de 24 heures. Il comporte un soir et un matin. Les six jours réservés à l'homme pour qu'il fasse tout son ouvrage sont aussi six jours de 24 heures, comportant chacun un soir et un matin. Voilà le récit de la recréation. Y croyez-vous ?